France Bleu Besançon, le quotidien de la famille.
Et aujourd'hui dans notre quotidien de la famille, nous allons nous pencher sur les analyses médicales. Comment les comprendre, comment les lire, parce que c'est vrai que c'est pas évident lorsqu'on se retrouve devant des analyses médicales, parfois on panique pour rien et on se pose des tas de questions. Que faut-il regarder en premier? Voilà une question toute bête. Alors attention, pas de consultation en direct live, mais en revanche, vous pouvez poser des questions à notre spécialiste ce matin. C'est le docteur Luc Baudin.
Le quotidien de la famille sur France Bleu Besançon avec Groupama, assurance santé et protection de la famille en Franche-Comté.
Bonjour docteur Luc Baudin.
Oui, bonjour.
Merci d'être là pour parler de ces fameuses analyses biologiques. Alors c'est vrai que nous avons tous fait des analyses et nous en faisons bien sûr tout au long de notre vie et que parfois nous nous trouvons devant un tas de feuilles, nous ne savons pas très bien les interpréter ou nous les interprétons à notre façon parce qu'aujourd'hui finalement les médecins n'ont pas forcément le temps de nous expliquer ce qu'il en est.
Voilà, bah, je crois que vous avez parfaitement bien compris le sens du livre que j'ai écrit, en sens que les médecins n'ont pas toujours le temps de donner toutes les informations, et il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent quand ils ont une petite augmentation de quelques décimales sur leur valeur, en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai du cholestérol, j'ai une toute petite une augmentation. Donc ce livre permet de déjà préparer le terrain, déjà d'avoir un certain nombre d'informations, quand on va s'inquiéter à juste titre pour les résultats, mais surtout on va arriver voir son médecin en ayant déjà un certain nombre d'informations, ce qui permettra d'avoir une discussion qui ira directement dans le cœur du sujet.
Voilà, alors docteur, ce qu'on va faire en premier, c'est justement nous nous trouvons devant notre analyse médicale, que doit-on regarder en premier? Quel est le conseil que vous pouvez nous donner?
Vous savez, vous avez déjà, en général, on a les résultats, et à côté, on a les valeurs qui sont les valeurs normales.
Oui.
Donc déjà, ça nous donne une petite une indication de savoir quels sont les examens qui sont en dehors des clous, si je peux dire, et ceux qui restent dedans. Après ça, il faut bien comprendre que ce ne sont pour la plupart que des indicateurs. C'est-à-dire, on change tous les jours, on va bouger, on va remuer, on va manger, on va vivre, on va être fatigué, on va moyen dormir. Donc tout ça, ça peut aussi modifier un petit peu selon notre état. Si on a une infection, on va modifier le résultat, etc. Donc il faut tenir compte, il faut regarder dans quelle mesure ces examens ont des anomalies. Alors en général, on parle ça en pourcentage. Par exemple, si vous avez si la normale pour le cholestérol est à 2 grammes, que vous avez 2,10 grammes, ça correspond à peu près à 5% d'augmentation. Donc c'est vraiment une augmentation, certes, mais très faible. Ce qui n'est pas pareil que si vous aviez 3 grammes de cholestérol. Vous comprenez ce que...
Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous, en tant que médecin, si vous avez fait ce livre, c'est parce que vous avez eu parfois des personnes qui sont venues consulter et en étant très très angoissées.
Oui, tout à fait, et très angoissé pour des choses qui n'en valaient pas la peine, en fait. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé des rendez-vous en urgence, justement, pour des cholestérols qui avaient dépassé. Ils m'ont dit, oh là là, j'ai trouvé une grosse valeur sur mon cholestérol, et quand je les recevais, en fin de compte, c'était extrêmement faible comme augmentation, et la bonne preuve, c'est que la plupart du temps, un petit régime a suffi pour rentrer tout ça dans l'ordre très très régulièrement.
Ouais. Alors, ce livre que vous venez de sortir, c'est une mise à jour, ça veut dire que vous avez rajouté certaines choses ?
Voilà, tout à fait. J'ai complété, j'ai rajouté, parce que vous savez, la médecine avance, la médecine évolue, et ce qui est superbe, c'est qu'aujourd'hui, on a des examens qui sont de plus en plus pointus, et là où avant, il y avait quand même on travaillait, si je peux m'exprimer ainsi, à la louche, là maintenant, on travaille vraiment à la petite cuillère, c'est-à-dire des examens qui sont très pointus et qui sont très fiables, de plus en plus fiables. Ça, c'est vraiment très important aussi.
Voilà, alors les analyses nous indiquent ce qui se passe dans notre organisme, hein, c'est un indicatif.
Voilà, ce sont des indications et on peut étudier comme ça les différents organes les uns après les autres. Par exemple, on va faire un bilan pour le foie, un bilan hépatique qui va être plus tourné vers les transaminases, vers la bilirubine, c'est-à-dire ce sont des enzymes qui sont fabriquées par le foie, qui normalement, par exemple, les transaminases doivent rester au niveau du foie, doivent être peu libérées dans le corps, et quand leur taux augmente, ça montre qu'il y a une inflammation au niveau du foie. On a un peu la même chose avec des enzymes pour les muscles, par exemple. Quand les gens ou des personnes ont des douleurs musculaires ou des problèmes au niveau du cœur, qui est quand même le principal muscle, eh bien on va se retrouver avec une augmentation des enzymes des muscles dans le sang. Et donc ça nous permet de savoir qu'il y a un problème de ce côté-là. On peut avoir aussi un bilan pour les reins, pour le pancréas, pour les hormones. Donc les bilans sont très nombreux, en fait, et ils vont être toujours choisis par le médecin en fonction des symptômes que présente la personne.
Mieux lire et comprendre vos analyses biologiques, c'est aujourd'hui le thème de ce quotidien de la famille. Et surtout, si vous avez des questions à poser au docteur Luc Baudin, faites-le là maintenant, parce qu'après, il est toujours trop tard.
Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu Besançon.
Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court.
Sur France Bleu Besançon, et nous parlons de vos analyses biologiques dans notre quotidien de la famille.
Le quotidien de la famille. Vos questions, vos réactions sur France Bleu Besançon au 03 81 833 111.
Et mon invité ce matin, notre spécialiste, c'est le docteur Luc Baudin. Nous avons en ligne Annie de Vaucluzette. Bonjour Annie.
Oui, bonjour.
Allez-y, posez une question au docteur.
Alors moi je voudrais savoir, bonjour docteur d'abord.
Bonjour.
Et puis je voudrais savoir, moi j'ai une analyse là récente concernant le cholestérol.
Oui.
Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus important, parce qu'on a un bilan cholestérol total, puis après HDL et ensuite LDL. Alors, lequel c'est qu'il faut prendre en compte? Lequel c'est le bon? Lequel c'est le mauvais?
Exactement, vous avez tout à fait raison. Être simple, déjà on va tenir compte du cholestérol total, c'est-à-dire le cholestérol qui est marqué, donc la valeur générale va être importante. Maintenant on considère, comme je le disais tout à l'heure, que la normale est aux alentours de inférieure à 2 grammes. C'est vrai qu'elle a eu tendance à baisser ces dernières années, parce qu'on s'apercevait que le cholestérol pose des problèmes quand il reste élevé pendant plusieurs années, on est bien d'accord. C'est pas quelque chose qui va se déclencher immédiatement. Le problème du cholestérol, au passage, c'est que ça va boucher les artères au fur et à mesure, donc être source d'angine de poitrine ou d'infarctus ou de problèmes au niveau de la circulation dans les jambes en particulier.
Oui.
Alors après ça, pour le HDL et le LDL, pour rester clair, le HDL correspond plutôt au bon cholestérol.
D'accord.
Et le LDL correspond au mauvais.
Oui.
Voilà. Donc, c'est évident que plus vous en aurez plus le HDL sera élevé, plus le LDL sera bas, et mieux ce sera.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc, vous avez tout compris,
Oui, c'est
Annie.
Très bien. Voilà.
Et vous êtes rassurée?
Oui, entre le bon et le mauvais.
Oui.
Voilà. Bon, puis vous avez les normales qui sont juste à côté. En général, le HDL est à partir de 0,5 ou 0,6. Ça fluctue aussi un petit peu en fonction des laboratoires. Il y a les normes qui se modifient un petit peu. D'ailleurs, j'attire l'attention là-dessus, qu'il faut faire attention quand on a deux examens qui viennent de deux laboratoires différents. Les machines qui étudient ces analyses sont pas toujours étalonnées pareil, et donc les normes sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut tenir compte de ça si on veut comparer les résultats.
Ah d'accord.
Voilà Annie.
Eh bien je vous remercie.
Merci pour Merci. Votre
Bonne journée.
Pour votre question.
Voilà.
Au revoir Annie.
Au revoir.
On parle des analyses donc biologiques ce matin. Il y a les analyses d'urine également. Et là aussi vaste sujet parce que on est amené à faire ce genre d'analyse et c'est pas toujours évident pour comprendre.
Oui, tout à fait. Les analyses d'urine sont des examens qui ont été un petit peu abandonnés pendant longtemps, parce que si vous vous rappelez, autrefois, on faisait des analyses, des petites bandelettes urinaires ou des examens à urine systématiquement avant de faire un vaccin. Donc, ça faisait partie du domaine courant. Le plus simple des examens sont toujours les bandelettes urinaires qu'on peut utiliser aussi dans les cabinets médicaux pour repérer des infections, des choses comme ça. Et puis après ça, l'examen phare, je dirais, c'est toujours l'examen, l'ECB urinaire, l'examen cytobactériologique des urines, qui va rechercher les éléments anormaux qu'il peut y avoir dans le sang, dans les urines, pardon. Les éléments anormaux, en général, sont les globules rouges et les globules blancs. Jusqu'à un certain point, il y a une tolérance, et à partir du moment où ils sont élevés, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, on recherche aussi les infections, les germes qui sont dedans.
Et puis, il y a aussi le test de grossesse.
Ah, le test de grossesse, évidemment, là, je dirais que ça nous échappe presque au niveau, nous, médecine, parce que les femmes le font d'elles-mêmes, ça fait partie des autotests maintenant, qui sont faits d'une manière tout à fait courante, mais vous avez raison, mais là, la lecture est relativement simple.
Voilà. Alors, il y a un tas d'examens, et puisqu'on parlait de grossesse, il y a la fameuse amniocentèse. Et bien sûr, ça, évidemment, lorsqu'on est amené à faire ce genre d'examen, on nous explique, hein, le médecin nous explique, évidemment, mais bon, il y a cette grande angoisse, hein, les femmes qui sont amenées à faire une amniocentèse vivent l'attente difficilement.
Oui, tout à fait. Heureusement, là, nous sommes en train la médecine évolue toujours, et la biologie également, et donc on est en train d'étudier des nouveaux tests qui éviteront l'amniocentèse, c'est-à-dire qui éviteront les piqûres au niveau du liquide amniotique, parce qu'on pique à travers, je vous rappelle quand même qu'on pique à travers le ventre de la maman pour prélever un petit peu de liquide amniotique, du liquide qui entoure le bébé, pour faire une analyse, et l'analyse est surtout pour retrouver certaines anomalies, mais c'est surtout pour rechercher s'il y a des problèmes génétiques, et en particulier la trisomie 21.
Oui, alors c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez là, ça veut dire que cet examen va évoluer, la piqûre dans le ventre, c'est terminé?
Pas encore pour le moment, mais ça en prend la bonne route, et on est en train de, parce qu'on retrouve des globules, des cellules de l'enfant dans le sang de la maman.
Oui.
Et donc maintenant, nous sommes à même de sélectionner qui appartient à quoi. Et à partir des éléments, des cellules qui vont être prélevées, qu'on retrouve dans le sang de la maman, on pourra savoir quel est le génotype, enfin la génétique de l'enfant. Si vous voulez.
Et c'est vrai qu'avec la myosynthèse, on peut connaître évidemment le sexe de l'enfant.
Le sexe de l'enfant, mais c'est vrai que c'est un examen qui est toujours angoissant, angoissant par le geste qu'il propose, et puis angoissant aussi par le résultat.
Et par l'attente.
Voilà, et l'attente du résultat. Alors après, on se retrouve devant un phénomène, la myosynthèse est quand même un problème, je dirais, d'ordre personnel aussi, après, d'éthique personnelle par rapport à la conduite à tenir. Ça, c'est un domaine qui, à mon sens, dépasse la médecine, et c'est vraiment un problème d'éthique et de pensée personnelle. C'est dramatique au niveau de chaque couple à cause de ces résultats.
Voilà. Bien sûr. Docteur, nous avons Paulette au téléphone. Paulette, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, Paulette.
Docteur, bonjour, madame.
Bonjour.
Oui, je voulais vous demander, parce que j'ai des problèmes sur les transaminases qui ont augmenté terriblement. L'année dernière, c'était normal. Et là, le 29 janvier 2010, j'avais 279 de GUT, transaminase de GPT.
Alors attention, Paulette, hein, on a dit on fait pas de consultation parce que c'est trop compliqué. Hein, le docteur n'a pas vos analyses
sous les yeux. C'est pour vous expliquer que il me fait faire un examen sur le transférine. Je sais pas ce que c'est.
Oui, alors. Luc Baudet, est-ce qu'on peut renseigner Paulette ?
Voilà, il y a un élément aussi déjà que nous a donné Paulette qui est important, c'est que c'est le suivi des analyses, parce que on trouve une analyse qui est anormale. Ce qui est important également, c'est de refaire un examen quelques temps plus tard pour avoir un temps d'étape, je dirais, voir un peu comment a évolué les choses. Parce qu'une transaminase, par exemple, ça, j'ai vu des cas où les transaminases se résolvaient d'eux-mêmes dans les 15 jours qui suivaient.
Excusez-moi de vous, mais c'était pour vous dire que on m'a fait faire une échographie et j'ai le foie normal. Et ça viendrait de la vésicule biliaire.
Oui, si vous voulez, là, vous êtes en train de me parler mais ce que j'étais en train de donner, c'était une indication d'ordre général.
Déjà, oui.
Donc, plusieurs analyses permet de donner le suivi. Parce que est-ce que les transaminases restent pareilles? Est-ce que les transaminases montent? Est-ce que les transaminases augmentent?
Oui, elles augmentent.
Je parle d'une manière générale, là, si vous voulez. Et donc, après ça, on va regarder avec les autres analyses autour. Parce qu'on va faire, quand on a des transaminases qui augmentent, ben, évidemment, on va se dire, d'où est-ce que ça vient? Donc on va faire un bilan hépatique qui va être plus complet, qui va justement regarder avec les transférines, on va rechercher la bilirubine, on va rechercher le cholestérol aussi, parce que le cholestérol est fabriqué par le foie. On va faire également des sérologies en particulier de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C, parce que c'est quand même un diagnostic important. On va faire une échographie également pour regarder comment est le foie et la vésicule biliaire, parce que c'est évident que si le foie ou la vésicule biliaire fonctionne mal, ça peut favoriser également ces anomalies. Après ça, il peut y avoir beaucoup de choses, dont en particulier la prise de certains médicaments favorise aussi la montée des transaminases.
Voilà.
Alors après, on donne aussi une tolérance par rapport aux transaminases, c'est-à-dire que les valeurs, comme je vous disais, changent un petit peu d'un laboratoire, mais imaginons que le laboratoire dans lequel vous êtes se situe à la maximum est aux alentours de 50. Eh bien, là, pour une personne qui aurait 150 à 200, c'est-à-dire 2 à 3 fois la normale, comme on le dit dans notre jargon médical, on est à la rigueur tolérant jusqu'à un certain point. On accepte une tolérance à 2 à 3 fois la normale. Mais il ne faut pas que ça aille au-delà, et il faut de toute façon faire un bilan complet pour rechercher la cause.
Voilà, Paulette. Nous avons Françoise de Besançon au téléphone. Bonjour, Françoise.
Bonjour.
Allez-y, Françoise, posez votre question au docteur.
Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on cherche quand on avait un staphylocoque dans les prises de sang.
Un staphylocoque dans les prises de sang.
Oui, disons que je fais des prises de sang pour surveiller si j'ai un staphylocoque.
D'accord, parce que bon, là en général, on fait deux choses. On va d'abord rechercher, faire un antibiogramme, rechercher un petit peu les antibiotiques qui vont être efficaces. C'est-à-dire, c'est qu'on met
Je n'ai plus d'antibiotiques. Hein. J'ai fini les antibiotiques depuis le mois de mars. Donc j'ai des prises de sang, maintenant c'est tous les mois.
Oui.
Des hémogrammes, et puis formule sanguine et protéines marqueurs.
D'accord, tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est que quand on trouve un germe, quel qu'il soit, quelque part, le premier temps, c'est qu'on fait un antibiogramme, c'est-à-dire qu'on va rechercher les antibiotiques qui sont efficaces sur le germe. Donc, ça nous permet, nous autres médecins, de savoir quels sont les traitements qui vont être les plus efficaces et adéquats sur ce germe. Et à partir de là, on pourra donner un traitement qui va agir dessus. Mais il se trouve que certaines personnes vont, à la suite de 1, 2, 3 traitements antibiotiques, ont toujours le germe. Et donc là, on est vraiment ennuyé. Donc on est à ce moment-là dans le domaine, on ne va pas non plus vivre sans arrêt sous antibiotiques. Donc on est dans le domaine de la surveillance, ce que vous êtes visiblement en train de vivre actuellement. Le deuxième plan qui est important, c'est d'essayer de retrouver la source, l'origine, d'où vient ce staphylo. Et ça, ça peut venir de tellement d'endroits. Le staphylocoque a déjà l'endroit le plus fréquent, c'est au niveau cutané et les muqueuses, surtout la peau. Après ça, ça peut être dans beaucoup, beaucoup d'endroits différents du corps et dans des endroits cachés qu'il peut y avoir des petits.
Il peut être un petit
endroit qui est source et qui favorise ça.
Voilà.
Au niveau osseux, moi.
Au niveau osseux également, oui, tout à fait. Et donc, on est ennuyé. Je vous signale au passage que si les antibiotiques n'ont pas donné d'effet, il est souvent aussi intéressant de faire des aromatogrammes, c'est-à-dire de rechercher les huiles essentielles qui peuvent être efficaces contre ce germe. Et les aromatogrammes, évidemment, les huiles essentielles sont en général mieux supportées que les antibiotiques, et ça peut être une bonne alternative une fois que les antibiotiques n'ont pas donné de résultats. Si vous
voilà, Françoise.
D'accord, je vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée, Françoise. On parle des analyses médicales, des analyses biologiques, ce matin avec le docteur Luc Baudin.
Jeudi 25 février, France Bleu Besançon consacre une journée entière à l'emploi. De 6h à 19h, les chefs d'entreprise vous donnent rendez-vous avec des dizaines d'offres, de bons plans et de conseils pratiques. Vous cherchez du travail? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur bleubesançon.com et passez votre annonce en direct sur l'antenne. Une journée pour l'emploi, jeudi 25 février sur France Bleu Besançon et dès maintenant sur bleubesançon.com.
7h-8h30, la vache d'émission.
Allô, René, c'est Marcel. Vendredi 5 mars, cause dans le poste. Allô.
7h-8h30, la vache d'émission.
Allô, il y aura plein de cadeaux. Allô, je te dis qu'il y aura plein de cadeaux à gagner.
7h-8h30, la vache d'émission.
Mais vin bleu descend du tracteur, ça passe pas, René. 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 Oh là là, il est encore plus con que ma belle-mère.
Vendredi 5 mars, la vache d'émission, uniquement sur France Bleu Besançon.
France Bleu Besançon, 9h-9h30, nos spécialistes répondent à vos questions.
Et ce matin, notre spécialiste, c'est le docteur Luc Baudin pour son livre « Mieux lire et comprendre les analyses, vos analyses biologiques ». Alors, docteur, on va parler des tests médicaux qui sont vendus en pharmacie. Alors, tout à l'heure, on a parlé il y a le fameux test de grossesse, on sait, mais il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres et ils deviennent de plus en plus développés, de plus en plus nombreux. On parlait aussi des fameux, des bandelettes urinaires qui sont quand même des éléments qui sont extrêmement intéressants parce que ça permet de rechercher aussi d'autres informations comme par exemple le sucre qu'il peut y avoir dans les urines. Après ça, bien sûr, on connaît tous les éthylotests, les tests qu'on va faire où on souffle pour savoir si le taux d'alcoolémie est trop élevé ou pas s'élever. Donc c'est toute une nouvelle génération qui sont en train de se développer là actuellement et je pense que ce sera des bons systèmes de dépistage dans l'avenir.
Voilà, que l'on peut réaliser chez nous, nous-mêmes.
Voilà, chez nous, voilà.
Voilà, il y a pour les diabétiques, forcément eux sont habitués.
Voilà, les diabétiques, c'est ce que je vous parlais là tout de suite avec les tests au niveau du sang. Alors donc, on peut le faire avec, bien sûr, dans les urines, mais ce qui est beaucoup plus fiable pour les diabétiques, on l'utilise avec la goutte de sang. Donc, ils sont obligés de se piquer régulièrement. Les gens qui sont sous insuline sont obligés de se piquer une ou deux fois par jour. Mais ça permet d'avoir un taux une précision pour le traitement qui est remarquable.
Alors, votre livre est très pratique. Bien sûr, vous nous expliquez ce qu'il faut regarder sur des analyses biologiques. biologiques, analyses médicales, il n'empêche qu'on peut aussi quand même poser la question à son médecin. Il faut oser, hein, il ne faut pas être impressionné parce que voilà, on reçoit chez nous les analyses médicales et puis on se dit, bon ben voilà.
Le livre ne remplace aucunement la consultation médicale.
Hein,
nous sommes bien d'accord, parce que vous voyez, comme la dame qui nous parlait des transaminases, je suis obligé de rester dans les généralités.
Et oui.
Parce que le médecin va avoir l'ensemble du tableau. Il va avoir les examens physiques qu'il aura effectués, il aura les autres examens qu'il aura pu faire comme une échographie, une radiographie, et il va avoir également les prises de sang et les prises d'urine. Donc avec ce tableau général, il va déjà pouvoir mieux, beaucoup mieux répondre par rapport au cas particulier que représente la personne.
Exactement. Alors on va résumer en deux mots, ou en trois. Que faut-il regarder en premier ? Sur quoi faut-il attirer l'attention des patients qui reçoivent leur analyse ?
Si vous voulez, un bilan, là encore, c'est une question difficile que vous me posez là, parce que ça dépendra tout à fait des résultats des examens qui sont demandés. Je dirais que quand on fait une numération, on va déjà regarder le taux, surtout, on s'intéresse nous surtout au taux d'hémoglobine, plus
oui.
Au nombre de globules rouges, par exemple, parce que le taux d'hémoglobine reflète vraiment le transporteur de l'oxygène, donc c'est vraiment important. On regardera également le taux de globules blancs, parce qu'un taux de globules blancs qui est au-dessus de 10 000, bon, ça signe qu'il y a un problème quelque part. Une vitesse de sédimentation. Pour la vitesse de sédimentation, on regardera surtout la première heure, le premier chiffre. Quand lui est augmenté, là encore, aux alentours à partir de 12-15, il commence à être largement augmenté, mais là encore, plus il va être élevé, plus ça signe qu'il y a un problème inflammatoire, une inflammation quelque part dans l'organisme. Donc, après ça, les autres examens, comme le cholestérol, comme le sucre, enfin le glucose ou le diabète, comme on va les interpréter en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, de leur augmentation. En sens que une petite augmentation, je dirais que c'est pas trop méchant, mais si vous avez une augmentation de deux fois ou trois fois le chiffre, ça devient très très grave.
Voilà, eh bien écoutez, vous nous avez un petit peu aiguillé, en tout cas, sur la manière de lire ces analyses biologiques. On ne s'angoisse pas lorsqu'on la reçoit.
Non, surtout pas s'angoisser quand il y a des petites modifications.
Ouais.
Hein.
Voilà.
Par contre, il convient toujours de la surveiller, comme je vous disais, de refaire d'autres examens un peu plus tard.
Ouais.
Et puis, toujours le meilleur traitement est toujours la prévention, parce que c'est là l'intérêt des analyses, c'est qu'on fait des analyses qui sont biologiques. Par exemple, un diabète ne se manifeste pas toujours, une augmentation de cholestérol, de triglycérides, d'une augmentation d'urée n'est pas toujours visible au niveau des symptômes et les analyses vont souvent permettre de faire des diagnostics avant que ça ne dégénère justement.
Alors je rappelle le titre de votre livre, docteur Luc Baudin, Mieux lire et comprendre vos analyses biologiques. Ça vient de paraître aux éditions du Dauphin. Merci docteur.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
France Bleu Besançon, le quotidien de la famille.